vous vous souvenez du sketch, mais ma mère s'était beaucoup battue à l'époque pour aller récupérer une subvention pour la première tranche de travaux. On démarrait les travaux de la tranche 3 et on attendait une subvention de la part de la préfecture de région depuis 2017. C'est anecdotique, c'est pas la majorité du genre, les autres. Voilà, et on a reçu effectivement le mois dernier. C'est pas la majorité du genre, au départ ça met un an, deux ans, trois ans maximum, mais n'empêche que sur des opérations à 2 millions, il faut les recevoir. Donc on a les arrêtés de la production, maintenant on attend d'avoir la subvention.
Ouais, ça fait. Enfin, j'arrive là, donc ça fait prendre beaucoup de risques pour attendre des subventions. Donc en fait, vous avez fait un crédit en attendant d'être financé sur des subventions que vous pensez recevoir, mais vous ne savez pas quand.
C'est non, c'est sûr qu'elles sont.
Alors, je le dis clairement.
Ah, c'est ce que j'ai compris.
Oui, donc.
Le mécanisme pour obtenir des subventions dans des collectivités, c'est assez cadré et c'est assez clair. Vous votez une première délibération. Vous dites, je pense que je peux, enfin, je demande X% de subvention au financeur. Donc, on a fait une délibération en 2023 pour le pôle d'enseignement supérieur où on a demandé des subventions à l'État, des subventions au département, des subventions à la région. Il y en a même qui nous ont donné plus que ce qu'on attendait. Donc, nous, on délibère. On leur envoie le courrier, la délibération officielle, via la transmission par la préfecture. Donc, voilà, tout ça passe au contrôle des collectivités, c'est envoyé aux collectivités. Et les collectivités font comme nous, elles se réunissent et elles votent l'attribution des subventions. Donc il y a eu un vote du département, il y a eu un vote de la région. L'État n'a pas de vote, c'est un arrêté du préfet, donc il prend un acte réglementaire qui est lui-même validé par la centrale au niveau du ministère de l'Intérieur, qui affecte les crédits pour chaque préfet, qui le note dans la loi de finances et qui est ensuite voté par le Parlement. Donc il y a trois votes, le vote de la région, le vote du département et le vote du législateur. Il dit le Ligand pour telle opération à telle date, il aura tant de subventions. Donc ça, c'est arrêté, c'est certain. Il y a la phase où on n'est pas sûr, on ne lance pas les travaux à ce moment-là, on fait juste la demande de subvention. Et ensuite, on a les notifications. De manière certaine, on recevra ces subventions. Maintenant, quand
est-ce qu'elles ont été notifiées ?
Elles sont notifiées, on a des arrêtés qu'on peut vous fournir si vous le souhaitez, où on a un courrier de Jean Delga, de François Laurent Guilbeault, et plus quel préfet nous avait notifié, c'est la précédente actuelle. Mais on a des courriers avec des notifications officielles nous disant vous aurez tant de subventions pour telle opération si vous la livrez dans les temps. On a fait les actes de livraison, on leur a dit voilà, l'opération est terminée, ils ont dit ok, c'est bon, vous êtes éligible, on vous versera quand on aura le sou.
Et à partir de quand vous devez le rembourser?
En fait, c'est un emprunt court terme, donc on peut le lever. Et en fait, la manière de fonctionner des emprunts court terme, souvent, on l'a eu beaucoup par exemple sur la zone d'activité économique à la communauté de communes, vous le faites sur un court terme, vous constatez à la fin si vous avez reçu les subventions, vous le remboursez avec les subventions, et si vous ne l'avez pas eu, vous le reconduisez. En général, c'est un an ou deux ans, un an et demi, ça dépend de la chute que exactement. Celui-là, c'est jeune.
Jusqu'à mai 2026, vous pouvez rembourser.
Voilà. Mai 26. Celui-ci, ça sera jusqu'en mai 2026. La prochaine équipe verra est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas. D'ici là, on devrait avoir les subventions. Si on les a, on rembourse. Si on a la moitié, on rembourse la moitié et on refait un nouveau prélèvement de la moitié. Voilà, c'est un fonctionnement assez classique pour une collectivité.
En fait, c'est ça, hélas, dans toutes les collectivités.
Oui, oui. Surtout le bloc communal, on est un peu les derniers, hein, puisque donc, la région fait, l'État fait la trésorerie sur la région en essence et dotation, la région fait la trésorerie sur les départements, le département fait la trésorerie sur les communes, et nous, on a deux choix, soit on fait un emprunt, soit on augmente les impôts. On en a choisi pour augmenter les impôts. Donc,
c'est au bout du bout, votre subvention a été même baissée par
les intérêts.
Oui. Et oui, il y a forcément quelqu'un qui fait ses intérêts à la fin. C'est nous.
Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de communes.
Moi, pour suivre tous les conseils municipaux de Castelnau, moi, je les filme. C'est une commune qui a plus de. Non, mais c'est oui. Parce que là, mais ils ont exactement le même fonctionnement sur la majorité des.
Alors, soit on ne fait plus rien. On engage des travaux, mais sauf que quand les travaux sont finis, il faut bien payer les entreprises.
On n'a jamais vu quand tu as
vu.
On
n'a
jamais dit qu'il fallait
aller.
C'est pour ça que de toute façon, ça coûte à la commune. Même si tu as attendu 2 ou 3 ans pour avoir des subventions qui vont tomber, elles sont notifiées, je le donne, mais il n'y a pas de problème. C'est de l'argent qui va.
Après, c'est vrai, c'est un équilibre pas évident, et on se pose vraiment la question de se dire est-ce que du coup on fait l'opération ou pas. Sur une opération à 2 millions, quand vous êtes financé à 80%, par exemple, je le dis sans problème, le département a fait un effort extraordinaire sur ce projet. C'est un peu en dehors de ses compétences, parce que c'est pas dans le cœur de ses compétences qui est plutôt le métier du social. Là, on est sur la formation, on est sur la rénovation d'un ancien équipement, il y a une histoire, le département, avec ce bâtiment. bâtiment. Donc, et puis la présidente de département fait un réel effort pour la ville de Bigan depuis le début du mandat. On les attendait aussi sur beaucoup de choses. Ils l'ont fait là. Et quand on a 660 000 euros de la part du département, c'est une opération que vous avez une seule fois dans le mandat. Il faut se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Les intérêts sur un emprunt comme ça, c'est entre 70 et 80 000 euros. Vous avez 600 000 euros en face du département. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer ces 80 000
et un retard dessus pour vraiment? Ça sera 43 000 l'année prochaine.
Non, mais ça, c'est des intérêts pour toute la dette, pas uniquement pour cet emprunt-là. Pour le 1,5 million qui sert à faire l'avance, on a autour de 80 000 euros de frais financiers. Donc, bon, on perd, c'est effectivement, on les perd. Mais en même temps, on passe, sinon, on passerait à côté des subventions de la région.
C'est qui contient dans la globalité du projet.
Ben, on aimerait mieux ne pas avoir à le payer, on aimerait mieux que ça soit immédiat. De fait, les partenaires, c'est un peu le deal aussi. Hein. Le département nous dit, je peux vous accompagner, je vous notifie maintenant, mais je ne vous paierai pas tout de suite. Je peux vous... Certains payent en deux fois, ils vous payent un acompte et puis vous versent la deuxième partie après. Certains font en trois fois. Une fois un acompte, une fois au milieu des travaux et une fois après la réception. Puis ils ne vous disent pas quand après. Donc voilà, c'est un peu ça. Par exemple, la région cette année a dit, je gèle l'instruction de toutes les demandes de subvention. Donc, là, je le ferai, mais l'année prochaine. Quoi. Bon, c'est un pari à prendre aussi. Qu'est-ce qui est mieux pour les Bigannais? Est-ce que c'est qu'on fait quand même ce projet, mais on a un peu plus d'intérêt à payer? Bon, si on avait une banque publique qui nous prête, ça serait mieux. C'est la forme nationale.
Je vois que la communauté, ils avaient le pôle multimodal de l'humanitaire, maintenant, qui est une subvention.
Alors, le PEM, c'est un peu différent. Le PEM, on est encore dans la phase d'incertitude. On est encore dans la phase où on a demandé et on n'a pas eu l'arrêté, on n'a pas de courrier qui nous confirme qu'on aura les subventions. Donc là, pour le coup, effectivement, on fait ce choix-là.
C'est normal de balancer.
Quand c'est pas notifié, on lance pas de chantier. Quand on est certain qu'on les aura, on a.
Il y avait quelques subventions qui étaient tombées déjà.
Quelques-unes, mais la plus grosse qui vient de la région, oui, pour se dire, la région 50%, 500 000 euros, grosso modo, on attend la région. Quand la région nous dit c'est bon, on y va. Quand la région nous a dit c'est bon, voilà. Je vois le vice-président en rapport de la région demain. Pour tout vous dire, demain midi. C'est partie des choses que j'aurais à demander. Voilà. Oui, pardon, sauf s'il y a encore des questions, s'il y a encore des questions, on continue les questions et après on va toucher. Le conseil administratif.
Plus de questions? Il y a des questions encore? Non. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le budget de l'eau. Alors, le groupe administratif budget avec de l'eau. Monsieur Juchemou.
Merci, madame la présidente. Donc là, on passe, même chose, le compte administratif pour le budget de l'eau, celui de l'année dernière. En 2024, le budget de l'eau, vous vous souvenez qu'en 2023, on avait un déficit de l'exercice en 2023. C'était l'année de la bascule. Vous savez, j'explique souvent que le budget de l'eau il fonctionne en escalier. Donc il y a une année, on fait un emprunt important. Chaque année, on fait des travaux. Et quand on est en bas de l'escalier, il faut remonter. En 2023, c'était l'année où on arrivait en bas de l'escalier, il fallait remonter. Donc on avait un déficit de budget de l'eau qui était de l'ordre de 99 000 euros, 100 000 euros. Cette année, on a remonté une marche. On est revenu à seulement, entre guillemets, 60 000 euros de déficit sur ce budget-là. Il se porte un petit peu mieux que l'année dernière. Je vais revenir, donc ça c'est sur le global, et je vais revenir poste par poste sur ce budget. Sur les dépenses de fonctionnement, on a une augmentation sur les charges à caractère général. Essentiellement, c'est le remboursement à la communauté de communes du transfert de la compétence sport. Là, il faut remonter au moment où ils ont fait le transfert de la compétence sport, donc il y a un certain nombre d'années. Ils ont transféré toute la compétence sport et ils ont oublié de transférer la question de l'eau. Et par exemple, dans la compétence sport, il y a la piscine qui consomme un petit peu d'eau et ils n'avaient jamais réglé depuis le transfert, donc c'est 2016, un truc comme ça. Depuis 2007. Ils n'avaient pas réglé la question du transfert des dernières factures d'eau. Ils ont refait les calculs comme il faut proprement. dans les 40 000 euros d'augmentation, il y en a 15 589 exactement, qui sont cette explication-là. Et donc, il y a effectivement 20 000 euros d'augmentation sur les charges d'énergie et de facture sur ce budget-là. Sur les charges de personnel, il y a le renforcement du service, puisqu'on a pourvu ce service avec un ingénieur pour établir le schéma de quotas et puis pour coordonner et analyser ce budget. C'est quand même un gros budget, hein, c'est la gestion de l'eau sur le territoire. Il fallait plus de compétences techniques sur ce budget-là, et donc il y a eu une augmentation des charges de personnel. Et puis sur les autres chapitres, bon, vous avez des petites variations ici et là. Les charges financières, elles sont, voilà, suivent cette explication-là de l'escalier, elles s'éteignent petit à petit, jusqu'à remonter en 2023. Et les charges exceptionnelles, par exemple, le particulier, le budget de l'eau, il est très soumis à la charge exceptionnelle, c'est quand il y a une fuite exceptionnelle et qu'on fait un dégradement, etc. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Pour les recettes de fonctionnement maintenant, bon, il y a eu une double écriture en 2024 sur les amortissements. On a oublié de faire l'écriture en 2023. Sur la compta, il y a beaucoup de choses à suivre sur tous les budgets. Donc, tous les ans, il y a de l'ordre de 30 000 euros, 30-35 000 euros. En 2023, on ne l'a pas fait, donc cette année, il y a 70 000 euros. Enfin, l'année dernière, il y avait 70 000 euros. C'est cette simple explication. Et ensuite, sur l'augmentation des tarifs, donc il y a plusieurs choses. Il y a l'augmentation des tarifs de l'eau qu'on a décidé l'année dernière, et il y a également l'augmentation des tarifs de l'agence de l'eau et du CIVOM. Pour l'agence de l'eau et le CIVOM, on a fait que boîte aux lettres, donc on le retrouve dans nos recettes, mais on le retrouve de l'autre côté en défense aussi. Et ensuite, on a l'augmentation que l'on avait décidé nous-mêmes. Et puis après, voilà pour les recettes. Voilà pour le fonctionnement. Pour l'investissement, bon, sur le budget de l'eau, on investit dans des choses assez simples, la réalisation des pompes et la réfection de l'eau. Donc là, comme d'habitude, vous avez ces travaux-là qui ont été faits. Travaux de l'avenue Jean Jaurès, évidemment, à chaque fois qu'on fait des travaux de voirie, la partie des travaux sur les réseaux d'eau sont imputés dans ce budget-là. Assainissement dans le budget du CIVOM, etc. Et sur les recettes d'investissement, ben on a les amortissements, donc le CTVA, et les subventions éventuelles qu'on reçoit sur ce budget, et les emprunts. L'année dernière, 40 000 euros de subventions sur ce budget. Voilà pour moi, je passe à les questions sur les comptes du budget de l'eau de l'année dernière.
Pas de questions ? Qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Approbation du compte administratif, budget annexe du village vacances, du Chamonix.
J'allais un peu plus rapidement sur ce budget, vous le connaissez bien. L'année 2024, c'était une très bonne année pour la saison touristique. On n'a jamais eu autant de chiffres d'affaires au village vacances, jamais autant de recettes. Puisqu'on a dépassé pour la première fois de l'histoire du village vacances, en tout cas de tout qui est géré en régie par la mairie, on a dépassé les 300 000 euros de recettes avec une très bonne saison et de très bonnes années de saison. Les professionnels en tourisme en sont très contents. Et donc, avec ce très bon résultat, on a pu faire pas mal d'investissements, notamment la rénovation du mobilier extérieur et les cuisines en régie. Voilà, plutôt une bonne année pour le bien de la France l'année dernière.
Des questions sur le budget ? Non ? Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie.
Non.
Ensuite, c'est fini pour moi. Ça a été fini. Maintenant, je vais t'appuyer.
Donc maintenant qu'on a voté le compte administratif, à la fin il n'est pas tout à fait équilibré, il faut faire les... enfin, le compte administratif est équilibré, mais il y a un lien entre le compte 2024 et le compte 2025. Ça s'appelle l'affectation du résultat du compte administratif 2024. Concrètement, on ne fait pas des virements, etc., mais c'est une écriture comptable. Donc vous avez un excédent de fonctionnement pour 2024, qui est 280 000 euros, ce qui est bien supérieur au capital qu'on a remboursé cette année-là, c'est comparable, c'est ce montant-là qu'on peut vérifier. Ensuite, vous avez sur la section d'investissement un déficit de 200 000 euros, un besoin de financement de 200 000 euros. C'est quelque chose de classique, on essaye de financer notre investissement avec notre excédent de fonctionnement. Et puis vous avez les résultats reportés des années précédentes. Et donc cette année, puisqu'on arrive à couvrir totalement le déficit d'investissement avec les soldes à réaliser et les excédents, on a 280 000 euros à affecter. Toute l'année 2024, il nous reste 280 000 euros. La proposition qui vous est faite dans cette délibération, c'est de l'affecter entièrement aux investissements pour l'année 2025. Donc ça nous permet de financer nos propres investissements. Pour cette année, donc vous avez les grands équilibres qui vous sont proposés, 5,2 millions en fonctionnement et 3,6 millions en investissement. Je vais revenir sur le détail. Dans les tableaux qui vous ont été envoyés, il y a des petites copies. Donc sur le tableau de la section d'investissement, en fait, 204 subventions versées, équipement, il y a écrit 80 000 euros. Donc c'est la troisième case en partant du haut à gauche. Subvention d'équipement versé, 20 000, barré, il faut mettre 15 000, c'est une erreur de copie. Et le calcul tout en bas, par ailleurs, la somme n'était pas bonne, on a repointé la somme et elle fait bien le même montant qu'en recette, c'est-à-dire 3 676 370,58. Il manque 20 000 euros dans le total. Donc, pas d'explication en plus ou au moins, c'est des erreurs de frappe. Voilà, c'est tout. Donc 15 000 en 204 et 3,636 millions. Je viens maintenant au rapport et je vais passer sur le détail section par section.
Déjà, est-ce qu'il y a des questions?
Donc sur le budget primitif pour l'année prochaine. Déjà le cadre. On a fait un premier débat d'orientation budgétaire le 7 février. On a donné les grandes lignes. Je ne les redis pas dans le détail, mais grosso modo, l'État vient tailler les coupures à tout le monde, ou presque, a demandé des économies aux collectivités. Et donc, on va le ressentir directement nous et indirectement par nos financeurs, la région, le département et les autres. Hein, les agences de l'eau qui ont perdu 150 millions d'euros. La région Occitanie a perdu 200 millions d'euros à l'échelle du Ligan en prorata par habitant. Ça fait 300 000 euros de moins sur notre territoire, pas forcément que pour la mairie, ça peut être un peu moins pour l'interco, un peu moins pour le lycée, un peu moins pour ceci, cela, les associations sportives. Et en tout, c'est 300 000 euros de moins de la région. Si elle nous aime bien, elle essaiera de faire un peu moins, mais l'ordre de grandeur, il est là. Le département, c'est pareil, on retrouve des baisses qui sont dans le département, là, tout le monde répercute les baisses décidées nationalement. C'est un contexte de contraction. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, donc les charges à caractère général, elles sont proposées en légère baisse par rapport à l'année précédente. Donc on bénéficie sur ce chapitre notamment des efforts qui sont demandés aux services, donc sur la baisse de leur budget, mais aussi sur les baisses des prix de l'énergie, hein, ça continue, la baisse de l'électricité, la baisse des fluides, du gaz, etc. Ça baisse pas beaucoup, mais ça baisse un petit peu sur un budget comme le nôtre, c'est suffisamment sensible pour se ressentir. On a un kilowattheure chez nous à 20 centimes.
Non, ah, cette baisse, vous la faites bien baisser sur votre budget, 90 000 euros de moyenne du coup.
En tout, il y a une partie, c'est la baisse de l'électricité, et une partie, c'est les efforts réalisés par les services qui disent bah, on va faire comme ci, faire comme ça.
Et à la ligne électricité, il y a 90 000 euros de moyenne.
Ah, sur la maquette, tu veux dire?
Oui, sur ça. C'est beaucoup, 90 000
euros. Bah, oui, ma face est. Sur le stock, on avait un kilowattheure qui avait fait quoi 6 quand même. Donc, on était à 6 centimes du kilowattheure en 2021, on était passé à 38, donc plus que x 6. On redescend un peu. Les tarifs de marché français, grosso modo, avec la production nucléaire en base qu'on a, c'est autour de 15 centimes. Donc on est à 20, on est encore élevé. Hein.
Je trouve que vous faites une belle baisse par rapport à passer de 38 centimes à 20 centimes. Pratiquement 90 000 euros, j'ai vu sur le.
Bah, les particuliers constatent à peu près la même chose, c'est les marchés groupés d'achat d'énergie. On a fait un. En fait, à l'échelle du Gard, et même plus large, le SMEC du Gard, le SMEC, le syndicat d'électricité du département du Gard, s'est groupé avec d'autres syndicats d'électricité, notamment celui de l'Hérault, et d'autres. Oui, j'explique pour tout le monde. Et ils ont fait un achat groupé d'électricité avec des tarifs révisés. Donc, effectivement, ça baisse le méchant. Oui. Donc, oui, c'est intéressant. Mais c'est surtout les années d'avant qui étaient indécentes, en fait. Là, on revient à des tarifs à peu près normaux. On dit que ça n'a pas normal. Donc, ensuite, sur les charges de. Donc, ça, c'est les fluides. Enfin, le 011, mais l'essentiel, c'est les fluides. Sur les charges de personnel, on a une augmentation pour l'instant. Donc, pour tout le monde, le gouvernement a décidé, par décret, d'augmenter les cotisations retraite des fonctionnaires territoriaux de 3 points chaque année. On est à 31 points cette année, je crois. On passe à 34, enfin, on est à 31 en 2024. Et on fait plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 tous les ans jusqu'en 2028. Ça, c'est une mesure qui est évidemment non compensée et surtout qui pose des vraies questions éthiques. Les trois inspections générales de l'État, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances, celle dont est issue M. Macron, donc les trois grands corps d'inspection de l'État ont fait une mission commune sur le financement du système de retraite des fonctionnaires territoriaux, la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et ils ont estimé depuis la date à laquelle ils ont réussi à remonter, c'est-à-dire pas la création du régime, qui était dans les années 60, ils n'ont pas réussi à retrouver tous les documents de manière fine et précise. Il y a des fois des archives qui se sont perdues, qui ont été mal stockées, et les trois inspections estiment que 100 milliards d'euros ont été ponctionnés dans ce régime de retraite pour financer les autres régimes de retraite.
100 milliards.
Non, c'est pas. Pour ça que je dis qu'il y a potentiellement un sujet même éthique là derrière, c'est-à-dire que le gouvernement, les gouvernements successifs, depuis les années 60, ont fonctionné au moins 100 milliards, de manière indiscutable et étudiée par les plus grandes les inspections de l'État, dans le régime de retraite des fonctionnaires locaux. Donc il est plus équilibré, puisqu'on a pu y prendre 100 milliards.
C'est légal ?
Ça s'appelle le dispositif de compensation démographique, c'est-à-dire quand un régime augmente et l'autre baisse, il perce à l'autre. C'est effectivement légal et bien rangé, c'est quand même une ponction de 100 milliards. C'est pas fait pour détourner, hein. C'est faire de dire le régime du privé n'est pas équilibré, le régime des fonctionnaires est équilibré, on va prendre un peu aux fonctionnaires pour financer le privé. C'est un système par répartition qu'on a inventé au moment de la Seconde Guerre mondiale et du Conseil national de la refondation, c'est plutôt malin, mais ça a des conséquences. Et là, on a choisi de ne pas décompenser ces conséquences.
La répartition, ce n'est pas à terme de chaque
Si tu veux, le rapport fait 120 pages. Non, mais c'est passionnant. Le rapport fait 120 pages et il explique comment, depuis 1960, on fait le financement pour les siècles de retraite. On ne va pas le faire ce soir. Mais bon,
j'ai voté contre quand j'étais.
Puis tu sais qu'il y
a une fonction.
En fait, ce qui se passe quand on a un mandat, c'est que quand ils ont créé, s'il n'y avait pas beaucoup d'agents, le nombre d'agents a augmenté et ils étaient en moyenne plutôt jeunes et ils ne prenaient pas leur retraite. Puis comme tu disais, et il ne fonctionnait pas. Dans le même temps, on m'a expliqué que, par exemple, les retraites agricoles, il y avait beaucoup d'agriculteurs, et maintenant, il n'y en a plus. Donc, si tu compenses agriculteur par agriculteur,
je veux dire, à une époque, ils avaient énormément de mortalité pour pas de, d'actifs. C'est pour ça qu'il y a des jeux de caisse. Oui. Le truc, c'est de dire, on fait une caisse unique pour tout le monde. Et visiblement, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il y a des caisses qui sont un peu plus riches que d'autres. Enfin, mais, la caisse des mineurs, à mon avis, elle a beaucoup qui coûtent des mineurs.
Ah,
jusqu'à plus de limite.
D'accord. Oui, chez nous, c'est pareil.
Oui.
Mais le principal bénéficiaire, c'est ni les mineurs ni les chez nous, c'est quand même le système que.
Oui, oui.
Et il y a effectivement ce mécanisme. La différence, c'est que nous, enfin, les collectivités, elles n'ont rien demandé, en fait. Ça se comprend, mais quand l'État il régule son propre système de retraite des fonctionnaires de l'État, ça s'entend. Quand il va se servir dans le système de retraite des collectivités locales sans compenser, et qu'après il leur dit vous êtes mauvais gestionnaire, vous n'avez pas bien géré, bon, et donc il nous demande de 3 points tous les ans, et donc au final, sans rien toucher, on garde les mêmes agents, les mêmes effectifs, on ne change rien, on prend 50 millions d'euros tous les ans de plus. Donc un poste et demi, sur les charges à caractère général. Ça, c'est l'essentiel de l'augmentation des charges de personnel. On a un taux de charge de ça, on était à 9,88 pour le financement de la branche maladie, la partie maladie de l'URSSAF. On passe à 10,80. Donc, pas dit qu'ils n'augmenteraient pas les années suivantes. Bref. Donc, charge de personnel en augmentation essentiellement de ce fait-là. D'ailleurs, j'en profite. Pour l'instant, on ne l'a pas inscrit au budget, parce qu'on n'a pas de chiffres précis, mais le ministre a dit qu'il y aurait peut-être une mesure de revalorisation des fonctionnaires dans l'année. Qui, quoi, combien, pourquoi, aller faire un budget avec ça. Donc, on se reparlera à ce moment-là si ils ont réussi à se mettre d'accord. Sur les autres charges de gestion courante, on est au même montant que les années précédentes. Sur les charges financières, on est effectivement au même montant que l'année précédente. Et vous l'avez effectivement compris, vous l'avez dit, c'est le fait de l'emprunt qui permet de faire l'avance des subventions. 2024-2025, c'est le prêt d'un million et demi qui nous permet d'apprendre des subventions. Voilà. Donc on passe de 40 à 120, ça fait à peu près 80 000. Voilà. Et donc le virement au budget cette année, on vous propose 350 000 euros. Donc c'est notamment les efforts sur le chapitre de l'once, la baisse de l'électricité. Maxime, tu le souligner, 80 000 euros, un peu plus de 80 000 euros de baisse de l'électricité, ça nous permet de faire à peu près 60 000 euros de plus de virement. Une partie est limitée par les fonctionnaires. Voilà pour le fonctionnement. Ensuite, sur le reste, les dotations, pour l'instant, on a des montants globaux. Des prévisions prudentes, à peu près au même montant que les années précédentes, dotation de solidarité rurale, dotation forfaitaire et dotation nationale de péréquation, on est à peu près au même montant que l'année dernière, un petit peu en baisse. Le produit des services reste à peu près au même niveau, donc ça c'est la cantine des écoles, les recettes des spectacles. Sur les chapitres impôts et taxes, pas de modification, on reste stable par rapport à l'année dernière, il y a une question d'écriture, comme vous l'avez vu. Sur les dotations et participations, on a une augmentation de 10%, c'est le remboursement des postes de chargés de mission du campus connecté. Puis le reste, voilà, on reste sur une projection prudente de nos dotations sur ce budget. Voilà pour le fonctionnement. Donc, nos dotations, on ne sait pas trop, on reste assez prudent sur les montants et les dépenses, un peu plus de personnel pour la caisse de retraite et un peu moins d'électricité. Je viens à la section d'investissement, s'il n'y a toujours pas de questions. Donc, sur les dépenses d'équipement, donc on a encore un peu plus d'1,5 million de dépenses d'équipement cette année prévues, ça reste un montant important, c'est plus que la moyenne des années précédentes, qui était autour de 1 million d'euros, hein, je le dis assez souvent, on prévoit exactement 1,880 et vous avez le détail, 700 000 euros de voirie, 400 000 euros pour l'aménagement des bords de l'art, c'est une opération sur laquelle on a fait beaucoup d'études. cette année les travaux vont pouvoir démarrer et la fin des aménagements de l'avenue Jean Jaurès, de la rue Gisèle-Aimé devant le pôle d'enseignement supérieur et du parc des Châtaigniers. Voilà pour les plus gros investissements. Il y aura aussi une rénovation du hall de la mairie, qui quand même commence à en avoir vraiment besoin. Quelques salles de classe également sur des travaux d'accessibilité notamment. Et puis toujours quelques véhicules, quelques logiciels, quelques travaux au cimetière, de reprise de concession, des choses qu'on fait chaque année. Voilà pour les principaux autres investissements prévus pour l'année prochaine. Pour la dette, donc, on est toujours à 4 millions, 20 millions 5 de reste échu et 280 000 euros de capital. Reste en vue, attendu. Voilà, pas plus. En résumé, investissement, beaucoup d'investissements de voirie et des bords de l'art.
Continue avec l'augmentation de l'eau. Moi, je pensais que je comprends qu'il y ait besoin de monter l'eau. C'est vrai que c'était relativement bas pour avoir des aides, des subventions. Mais c'est vrai qu'il fallait certainement monter l'eau. Mais un lissage du prix sur le mandat aurait été plus judicieux et bien sûr moins dur à accepter. Aujourd'hui, beaucoup de nos administrés ne peuvent pas faire face à une telle augmentation, surtout quand ils reçoivent la deuxième facture. C'est-à-dire à la première où il y a juste les abonnements à payer, les taxes, mais la deuxième avec les consommations. Après le non-transfert de la compétence eau, nous avons de sérieux doutes sur la création d'un poste d'ingénieur sur ce service.
Il va falloir aussi prendre en compte les salaires des tuteurs du campus connecté. On nous avait dit en début de mandat que vous trouveriez les financements nécessaires, vous savez. Il reste à régler aussi les problèmes de caserne, pompiers, gendarmerie. Nous avons attendu tout le mandat en espérant des issues favorables. Pour l'instant, je ne vois rien venir, c'est dommage. Je terminerai aussi en parlant du village vacances, c'est un point positif parce que je pense que la gestion du village vacances est plutôt bien gérée, à rien à dire de ce côté-là. Je pense que pour rendre cet outil moins énergivore et plus fonctionnel, il faudra continuer les investissements qui ont été faits tout au long du mandat. Après, ben, je ne cache pas mon inquiétude quand même malgré tout sur la dette, malgré tout ce que vous pouvez me dire, je ne suis pas rassuré. Et le fameux prêt à 1,5 million, bon, j'entends les notifications, mais il y a beaucoup de gens qui attendent de l'argent de la région ou d'ailleurs. Alors je ne mets pas ça sur le dos, mais j'ai quand même des doutes. Voilà, c'est pour cette raison qui nous amène à penser que ce budget, moi, il ne me convient pas vraiment, et que c'est votre programme, hein, que je respecte. Merci de m'avoir écouté.
Merci Alex. Y a-t-il d'autres questions? Ton journal de campagne est fait, c'est bien.
Moi, je ne suis pas capable, mais c'est bien. Un de tes policiers m'a traité d'être en campagne avec ses communautaires. Toi, tu es en campagne, moi, je ne le suis pas. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je vais me présenter. J'ai des points, nous avons des points différents.
Très très bien.
Et voilà, j'espère que vous en tiendrez compte. C'est à mon avis, bien sûr, vous n'allez pas tout retenir, mais réfléchissez, il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider.
Mais ça aurait été bien qu'on construise ensemble tous ces points.
C'est lui. Construire ensemble, on ne va pas refaire le match. Tu le connais. Si tu t'en rappelles, je ne vais pas parler de nos conversations téléphoniques en début de mandat. Il y en a une qui a été importante. Tu n'as jamais voulu travailler avec nous. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai été dur de créer beaucoup de positions. C'est la même chose.
Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres observations sur ce
Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, c'est quoi le choix politique que vous avez fait de ne pas mettre de place devant l'école des infirmières? Je ne comprends pas.
Alors là, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Il faut savoir que le parc des Châtelliers est un site classé. Donc, il était prévu dans nos plans, il est classé depuis 1925. Donc, dans nos plans... Premier plan que nous avons fait, nous avons prévu des places en haut des Châtaigniers. Il y avait une vingtaine de places à côté. On doit les avoir quelque part, ces plans, mais il n'y a pas de souci. Sauf que ce site est classé. Et quand la DIAL est passée, et avec Noël, donc je vous en parlais de façon très. Nous sommes allés donc, devant un jury animé par la culture, devant la DIAL, les ABF et autres. Et comme c'est un site classé, nous n'avons pas le droit de mettre des places de parking.
Alors, tout simplement, dans ces cas-là, pourquoi supprimer la route qui montait où les gens pouvaient se garer? Pourquoi vous avez modifié? Parce que nous, à la clinique vétérinaire et pas que, toutes les infirmières viennent se garer autour de la clinique, on ne peut plus se garer. Les gens font demi-tour toute la journée, soit au niveau du stop, enfin devant l'école, soit juste à la clinique. On ne peut plus se garer. Donc pourquoi avoir supprimé cette route alors que ça pouvait faire 10 places en sachant qu'on ne pouvait pas faire des places en genou? Pour moi, c'est incompréhensible.
Alors il y avait aussi, donc, non seulement ce choix politique que j'assume totalement, ça, on assume tous l'équipe, et il faut savoir aussi que cette route, c'était quand il y avait des épisodes cévenols. C'est une route qui vraiment c'était une vraie rivière, donc la route de la Côte d'Arc.
Mais ça n'a pas changé, hein. On patauge, hein. Je suis désolée, mais
c'est ça absorbe quand même, l'eau de la Côte d'Arc est absorbée par les grilles du haut.
ça c'est sûr, oui, ça c'est certain. Il y a le bas des châtaigniers qui est encore en... Voilà, mais c'est pas...
Oui,
c'est pas
sur le bas des châtaigniers.
Sur le bas des châtaigniers. Non, le cimetière, c'est réglé, ça, j'y passe 10 fois par jour. Donc, je sais parfaitement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de flingue comme il y avait auparavant, avant que les châtaigniers, avant que cette voie soit faite. Par contre, il y a la dernière fois qu'il a plu, il y avait de l'eau dans le bas du parc des châtaigniers, mais le problème, voilà, c'est pas fini, ça va être pas fini. Mais par contre, l'eau qui descendait du parc de la côte de Dolas est observée par ces pavillons. Et il faut savoir que l'eau qui descendait de la côte de Dolas inondait le dessous du quai.
Oui, ça va.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas, voilà, quand il a plu la dernière fois.
Excusez-moi, mais il y a d'autres façons de détourner l'eau que de détourner la route. Je pense que ce n'est pas une réforme
valable. On y a réfléchi.
Moi, c'est une dernière visée.
On y a réfléchi.
On avait parlé aussi, Sylvie, que je t'avais demandé, je t'avais demandé pourquoi, tu m'as dit c'est un choix, tu l'avais assumé déjà à l'époque. Mais moi, pour y travailler tous les jours devant, c'est vrai que le sens de circulation a été bouleversé, surtout aux travaux, les places partout. Alors, tu vas me dire, on trouve de la place, oui, mais mardi, jeudi, non. Il y a deux jours, c'est particulier. Alors, parce que l'école est un peu plus affluente, parce que les gens sont un peu plus au travail, je ne sais pas. Mais il y a deux jours où on manque vraiment de partout, ça c'est sûr. Ça, c'est un fait sur le haut du parc des Châtaigniers.
Après,
c'est
tout changement intentionnel, et il faut peut-être prendre d'autres habitudes. Alors, il y a une étude qui a été faite donc, avec le bureau, je ne sais plus. Il y a une étude sur la circulation et le stationnement dans le FICA. Donc, nous avons eu les résultats.
On en avait parlé déjà la dernière fois. Et en fait, c'est sur le site internet le résultat de l'étude, il est sur le site de la mairie. Et en fait, c'est sûr qu'à partir du moment où là on a supprimé cette route, il y avait du stationnement quand même sauvage, mais du stationnement. Maintenant, il faut que les prennent les gens qui ont des habitudes, ils vont les trouver. Néanmoins, on n'est pas d'un mot non plus. Il faut bien que les gens stationnent en centre-ville. C'est pour ça qu'aussi, il y a quand même maintenant, ça fait plus d'un an, on a ouvert ce parking en face de la cité scolaire. On étudie peut-être de lui faire un étage, l'idée n'est pas farfelue ni trop chère. Donc on a ça. Et Sylvie faisait allusion à l'étude de circulation et stationnement, où justement par le jeu de mettre certaines rues, pour l'instant on n'a rien décidé, mais certaines rues en sens unique ou de créer en tous les cas par une organisation plus de stationnement ici et là, parce que le résultat de l'étude dit vous êtes à l'équilibre en termes de place de stationnement.
Vous avez l'étude qui est sur le.
J'ai reçu ces gens qui sont venus me faire les relevés à 9h du matin lundi. Oui, je les ai reçus. Excusez-moi, ce n'était pas représentatif. Ils ne sont pas passés tout le temps. Ils sont partis. Moi, quand je les ai vus, à chaque fois, j'avais les lettres, je me disais, passez dans deux heures. Parce que j'y suis. Et on a discuté, j'avais sympathisé avec ces gens qui sont venus. Ils sont venus deux ou trois fois faire des relevés. Et j'ai discuté avec eux, mais eux, le relevé, forcément, c'était.
Mais ils ont passé plusieurs jours au bien, dans tous les horaires, ils sont venus même.
Par contre, la réorganisation urbaine que tu me parles, je l'entends. Ça, pour moi, je suis d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. À chaque fois que tu supprimes une route, etc., il y a un équilibre donc, de place en mental, les gens vont se déplacer, changer leur habitude. Mais il y a pensé aussi qu'il y a des. Je ne vais pas faire plus grand rapport, pas donc si je suis le président, mais il y a un équilibre économique qui est derrière ça, et qui souvent est bouleversé le temps que ça reprenne, un équilibre. On en avait discuté avec la mairie précédente, quand j'étais président du PV, par exemple, sur la rue des Barrius. Ils avaient eu des travaux. 8 mois dans un sens, 6 mois dans l'autre. Et tous les commerces de la rue des Barrius, à l'époque il n'y avait pas net, il y avait couché, etc., ils sont morts petit à petit. Il y a Colivier, même la coiffeuse est partie, etc. Donc il y avait quand même des commerces qui étaient vivants, aujourd'hui ben, il y en a beaucoup moins, ça essaie de ressortir.
Il y a ça dans la rue des Barrius, je sais pourquoi ils sont partis.
Ah, oui. Je l'entends, mais ça, on est d'accord pour tout ça, la structure, etc. Mais ça aurait mis plus de temps là, économiquement, ça leur a fait forcément,
là où on a fait des travaux, on a fait ça sur l'année à l'émise, c'est assez compliqué. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces changements, il ne faut pas les prendre à la légère, je trouve, parce que par contre, il y a un équilibre derrière économique qui est bouleversé, et les petits commerçants qui rentrent chez eux, qui essaient de payer leur crédit, ben, ça devient compliqué.
C'est pas que la circulation, mais je suis commerçante, je ne sais pas que la circulation, je peux te le garantir.
Il y a tout.
Voilà.
On connaît le dossier des commerçants.
Voilà. Il y a tout. On connaît complètement le dossier, je crois que voilà, c'est lui qui connaît le dossier, c'est comme ça, par rapport au contexte économique des commerces.
Et juste pour finir, donc l'école d'infirmière, c'est le top. Mais de ne pas avoir prévu qu'il y a la voie à 10 bagnoles, 10 voitures en plus qui stationnent tous les jours. Donc à un moment donné, je sors ma voiture pour prendre les places devant la clinique, parce qu'elle est belle, elle reste toute la journée. Donc elle, je vois école infirmière, et moi les gens qui arrivent avec leur chien ou leur chat qui doivent se garer en haut aux poubelles, et que s'ils se mettent en double fil, Jean-Luc s'arrête pour me dire attention, c'est 135 euros, j'ai des consignes, je vais aligner. Voilà, assis belle. Voilà. Donc il m'a dit, voilà. En attendant, c'est, voilà, le stationnement autour de l'école, d'autant plus qu'il y a encore 10 appartements qui vont se faire dans la petite rue, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Donc c'est bien, voilà. Ou alors, on peut faire un truc aux infirmières, on dirait, ben, allez, vous gardez la bioco, puisque c'est un parking.
Ça, on le leur a dit.
Ben, elles sont, voilà. Mais elles se gardent, voilà. C'est dommage.
Bon, en tout cas, voilà.
C'est un problème.
Mais c'est sûr qu'on pourrait quand même, enfin, je pense qu'on ne peut pas obliger les gens à faire ci, ça, mais par définition, les étudiants, ils sont plutôt jeunes, en règle générale, donc ils peuvent quand même se déplacer un petit peu, se garer un peu plus loin. Donc, il faudrait faire en sorte, effectivement, qu'ils ne garent pas juste.
Ou même la petite rue qui passe derrière le lycée, pour savoir faire exactement
le même. Une solution, ça pourrait être, je ne sais pas si c'est la solution. Il faut réfléchir, mais mettre une bleue par
rapport à la
question. Il n'y a pas de souci. Mais même dans le système de bornes, on peut se garer, vous avez droit à une heure, et quand c'est passé une heure, là vous êtes verbalisable.
Peut-être que derrière
ça, mais on veut bien des places comme ça devant la clinique.
C'est pour ça qu'on fait devant la sortie scolaire, on a fait le choix de mettre des zones bleues pour cette raison-là. Parce que la facilité.
D'ailleurs que se forme.
Et bah, oui, parce que la facilité, c'est de se garer de densité, mais ce n'est pas le but du jeu. Déjà, il y a un parking qui faut remplir, et puis après, il y a un parking en face aussi.
Non, mais s'il se garde devant, c'est qu'il n'y a pas d'autre place dans le parking.
Je ne suis pas sûre que ça soit ça.
On vous invite à venir les après-midi, le parking des profs, il est payé. Donc,
après, il y a aussi du stationnement un petit peu plus loin, de l'autre côté, dans la maison météo. Là aussi, à la maison météo, on s'est dit qu'il y avait peut-être des petites places organisées. Enfin, bon, avec cette étude, on doit pouvoir trouver
des solutions
d'éloignement sans faire des travaux pharaoniques.
Mais sur les bornes, il faut faire attention, ça paraît souvent une bonne idée. Rencontre ben, plein de problèmes avec ces bornes, notamment que ça nécessite du coup une connexion électrique, un raccordement, il faudrait faire une partie de la chaussée, ça coûte très cher, les bornes en elles-mêmes coûtent très cher, et puis surtout, dès qu'il pleut, elles sont facilement inondées. Enfin, il y a plein de.
La zone de bon, c'est le plus facile.
Oui, les bornes,
on a déjà
passé. Oui, on a plein de ressources d'expérience.
C'est la zone de bleu. Y a-t-il d'autres questions?
Justement, pour entrer dans le bleu et
après de l'entrée de la route qui passe devant le collège et le lycée. Bon, quand vous avez décidé de fermer la route, peut-être il aurait été judicieux de ne pas la fermer ou la fermer de manière occasionnelle avec des bornes justement qui pointent et qui descendent là, vous savez, et qui permettraient aux heures de pointe de laisser évacuer les gens par là.
Alors, depuis 15 jours ou depuis cette semaine, je ne sais plus, c'est fermé en bas. Et en haut, c'est fermé, donc personne ne peut passer. Et il y a deux policiers municipaux qui sont installés.
Je parle de la Côte d'Olas.
Ah, la Côte d'Olas, d'accord. C'est moi, c'est devant la cité scolaire.
Ah non, je parle de ça. Non, c'est de la cité scolaire.
Hein. De la cité scolaire, ouais. C'est fermé là, depuis 15 jours.
Alors, la semaine scolaire, la veille, comme il y a un plateau surélevé. Comme il y a un plateau surélevé devant la cité scolaire, la règle c'est que tout piéton est prioritaire. Mais bon, comme on voit bien que la connaissance du code de la route n'est pas aisée pour chacun d'entre nous, On va incessamment sous peu, enfin j'ai vu Franck ce matin au téléphone, ils vont faire la semaine, je crois, faire plusieurs traçages de passages piétons. Ce qui veut dire que dans la règle, si jamais par hasard il y avait un étudiant qui traverse en dehors des passages routés, il faut savoir que là, pour le coup, il n'est pas en passage sécurisé. En fait, on n'aurait pas, on ne devrait pas mettre le. Comment essayer, mais ça va se faire.
On parle de passage clouté. Si on fait une zone piétonne sur le passage clouté.
Citoyen qui circule, et qu'est-ce qu'il va dire? J'arrive là sur cette zone rouge, je dis quoi? Ça n'existe pas dans la zone de la sélection de notre route, en fait. Parce qu'on y a travaillé, on y a travaillé avec le département. Deuxièmement, on a travaillé avec le département à l'unité territoriale, et si on fait toute une surface, bon, si on fait toute une surface peinte, c'est glissant pour tout le monde. Donc l'affaire est complexe. En fait, normalement, on ne devrait rien mettre dessus, parce que si sur élevé, on devrait tout trouver au
cas. Peut-être pas assez sur.
Ah mais là aussi, non, là aussi, si c'est trop surélevé, ce n'est plus balanc. Donc on va mettre des traçages de l'angle, bien dit, traverser le piéton. Il y en aura plusieurs. Ça devrait correspondre à ce qu'on se fait tous un passage piéton et donc nous aider à ralentir les uns et les autres.
D'accord. Oui.
Oui, c'est bien de prendre toutes ces dispositions. Dans beaucoup de villes, c'est les APE. C'est les parents d'élèves qui donnent 2 milliards de leur temps pour faire traverser la
transition.
Si c'est possible d'agiter le
D'autres questions par rapport au budget, au
collège-lycée. En primaire, oui, mais au collège.
Je t'ai attaqué sur des idées, tu m'as attaqué personnellement.
Mais moi, je ne t'ai pas attaqué sur des idées, pas du tout.
Ah, mais bon. Alors, je ne veux pas. Je fais un petit bisou, il n'y a pas d'autre
problème.
Mais
c'est pour
dire
que
c'est pas
de pourquoi.
Non, parce que tu m'as dit qu'il y a campagne. Je ne sais pas
de campagne.
Je
suis là pour des femmes. Tu as préparé ton journal de campagne.
Je suis là pour des femmes. Déjà,
tu m'as
dit. Oui, c'est une comptable. Mais moi aussi, je ne pense pas. Je ne suis pas avec ces CD, je donne. Mais je suis lycée, je ne suis pas comme ça.
Par rapport au même tracé, on aimerait savoir ce qu'il a dit exactement.
Alors, par rapport au même tracé, je vais te laisser la parole.
Comment?
Ah
non, ah si, 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 alors là je suis, comment vous dire, détendue. Donc c'est la maire d'Avez hein, qui a en fait alerté la DDTM, alors que parallèlement à ça nous avions eu des financements, donc l'Agence Nationale du Sport et on a eu de la DETR, un reliquat de DETR, donc le dossier avait été déposé en sous-préfecture. Donc c'est madame la maire de d'Avez qui a, alors qu'elle a été associée à toutes les réunions, elle a signé on avait demandé un CUB, on a fait une déclaration préalable de travaux, ils étaient invités à toutes les réunions de chantier qu'il y a pu avoir en amont et pendant le projet. Et donc l'été dernier, effectivement, elle a sollicité Madame Arnal parce que elle avait par rapport à la digue, en fait, elle avait peur que que ça fasse en bâcle par rapport au pump track, à la création de ce pump track. Du coup, elle a adressé un courrier à la DDTM et de suite, quelques mois plus tard, de très longs mois plus tard même, puisqu'on a eu un courrier au mois de janvier, effectivement, de la DDTM. Qui nous demande juste en fait de vérifier s'il y a une déclaration de loi sur l'eau à faire ou pas. Voilà. Nous, on a eu les services de la DDTM au téléphone. On a eu effectivement également la sous-préfète et Madame Boisson, la secrétaire générale. Parce que quand on a déposé le dossier en fait de déclaration préalable, le service instructeur de l'urbanisme ne nous ont pas alertés en fait sur cette problématique de loi sur l'eau. J'avais contacté le syndicat Rivière pour effectivement savoir s'il y avait besoin d'une déclaration ou pas. À ce moment-là, on m'a répondu que ce n'était pas la peine. Donc, je n'ai pas fait de dossier de loi sur l'eau. Et là, la DDTM n'est toujours pas sûre qu'il y ait besoin d'une déclaration loi sur l'eau. Donc là, on est en train de faire une étude préalable avec l'ingénieur de l'eau. Donc, M. Coudert, c'est lui qui a pris en charge ce dossier, puisque c'est lui l'expert, en fait, en la matière. Donc, avec le syndicat Rivière, ils se coordonnent tous les deux, et moi, par rapport à un côté administratif, pour faire une étude hydraulique sur ce pump track. Et puis après, là, avec la DDTM, il faudra, on pense, régulariser en faisant juste une déclaration. Voilà.
C'est mon avis que les échanges n'avaient pas été respectés.
Mais non, en fait, je ne sais pas. Il y a eu un plan topo qui a été fait au préalable. Enfin, tout a été fait dans les règles. Voilà. Après, il y a des interprétations qui peuvent être différentes. Je peux comprendre l'inquiétude de Madame le maire, mais en tout cas, pour moi, le cahier des charges a été respecté. Voilà. On a même changé, en fait, avec Madame Pavlista, pour le coup, on a même changé l'orientation du pump track. Donc, effectivement, il y a eu du changement par rapport aux plans initiaux pour conserver la ripisylve. En fait, il y a le bord de l'art, il y a la ripisylve et il y a le pump track. Et au départ, le pump track devait être un peu plus sur le chemin. Et donc là, avec Monsieur Joris Mazafon de la charte forestière, nous a alerté en fait sur une probable problématique de la ripisylve pour préserver. Donc du coup, on a demandé à l'entreprise de nous refaire des plans et de changer en fait l'intégration, voilà, du pump track, ce qui fait que l'orientation est différente. Et voilà. Voilà. Oui, même, on n'est même pas sûr, en fait. La DDTM nous demande de faire, voilà, de voir une étude hydraulique, mais bon, on est en contact avec eux, voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Ils se sont abstenus. Contre.
Oui, contre.
Pardon, j'ai pas vu.
Okay. Alors, délibération de l'ordre d'approbation des taux 2025 de la fiscalité locale, monsieur Jules Chaboux.
Il vous est proposé de garder les taux de taxes foncières bâties et taxes d'habitation au même montant que l'année précédente et que les années avant.
Et vous connaissez le taux de l'État à fixer ? Ce que j'ai vu, donc, dernièrement, c'était intéressant d'ailleurs de voir ça, c'est le commune du Gard qui a volontairement baissé la part communale de la taxe spéciale de manière à ne pas trop faire subir aux gens une augmentation à l'intérieur de cette fameuse taxe.
C'est je crois aussi politique également, et si tu baisses la taxe, tu baisses aussi tes investissements, hein, tu es évoqué.
Après,
c'était cool.
Oui, d'accord.
Voilà.
Moi, ce que je
pense, c'est que c'est un truc qu'on n'a pas augmenté. Délibération numéro 10, Association
Solidaire et la Subvention
2025.
Donc là, vous avez un tableau avec plan de la liste des subventions d'associations qui vous sont proposées, vous remarquez qu'il y a une légère augmentation par rapport à l'année dernière. On a souhaité, par rapport à 5 000 euros, on a souhaité, avec Sylvie, ne pas toucher à ce budget-là, même dans une année où on fait des économies sur la plupart des chapitres, on essaie de serrer partout. Celui-ci, comme on a cité tout à l'heure la question de la sécurité, il y a eu plus de renforts en police municipale et autres. Sur les subventions, c'est pareil, on a décidé d'un petit effort supplémentaire. D'autres collectivités font d'autres choix, décident de sabrer dans les aides à l'agriculture, ou dans les aides au sport, ou autre chose. Nous, on a essayé de garder les montants. Si vous avez une interrogation sur les sommes en fin de tableau, on l'avait déjà évoqué en commission, mais je le redis devant tout le monde. Le total en bas de ligne, si vous faites la somme de chacune des lignes, et notamment pour les premières années, 2015, 2016, 2017, vous ne vous rendez pas sur les mêmes chiffres. Ça, c'est parce que c'est le tableau de suivi des subventions qu'on verse encore actuellement. Il y avait des associations à qui on donnait des subventions en 2015, 2016, 2017 et à qui on n'en donne plus. Donc on les a supprimés du tableau, pour autant le total à la fin, ça reste le total qui avait été versé à l'époque. Donc le nom de l'association a disparu, et si vous voulez retrouver ça précisément, vous avez les délibérations de 2015, 2016, 2017 avec les tableaux détaillés de ces années-là qui sont exhaustifs. C'est une précaution qu'on n'a pas prise, c'est pour ne pas avoir un tableau qui fait un nombre de lignes non plus déraisonnable. C'est la seule raison. Les lignes ont été supprimées pour ça. Donc le total n'est pas exact, mais c'est bien le montant de cette association et on peut trouver l'historique des années précédentes.
Des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 11, affectation de résultats du compte administratif du budget annexe de l'eau, donc je le chameau.
Là, il n'y a pas d'excédent à reporter, donc la question est. Le coût est à l'église attendu. En l'occurrence, comme il convient d'affecter le besoin de financement de la section de fonctionnement de 61 000 euros à la section de fonctionnement, donc il faudra le faire l'année prochaine. C'est ce que je vous disais, la marche se réduit, mais il en reste encore plus. Et donc, on vous propose de voter ça, mais en réalité, on n'a pas légalement le droit de faire autre chose. Mais enfin, on vous propose quand même de voter ça.
Qui a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 12, le budget primitif du service de l'eau 2025. Julie Charmou.
J'ai essayé de parler un peu plus fort. Vous me dites si vous êtes trop perturbé par l'expérience. Donc, il y a une petite coquille au début. On n'a pas 24 à vous donner au service de l'eau, on a 2420 000. Évidemment, si on a 24 à donner, ça ne fait pas beaucoup. Ça voudrait dire que la ville ne se serait pas fait choquer. Je ne souhaite pas avoir un jour la ville à 24 à donner. Vous avez la version à l'écran qui a été corrigée et qui a été ramenée à 2400. En début de mandat, on était autour de 2200. Donc c'est un peu les nouvelles installations sur le territoire, c'est bien. Et un peu, enfin, pour partie des nouvelles installations et pour partie des divisions qui sont faites, des gens qui sont en copro ou qui sont en habitat collectif ou sur des compteurs rassemblés. Par exemple, une famille qui avait trois parcelles et qui désormais fait des divisions, soit parce que les parents sont décédés, les enfants revendent de la maison. Enfin, voilà, il y a différentes explications, mais on était très. Enfin, on avait beaucoup de compteurs collectifs. Et de plus en plus, les gens veulent un compteur individuel pour décider pour avoir un suivi de leur facturation précis. Donc on a ces deux mécanismes, plus d'habitants et aussi plus d'individualisation des compteurs. Donc on est passé de 2200 à 2400, 10% à peu près de l'augmentation du nombre de compteurs. C'est un chiffre plutôt intéressant à avoir. Donc sur le budget de l'eau, sur la partie dépenses. Sur les charges à caractère général, on a une augmentation. Pour partie, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est des travaux en régie qui vont être faits en plus, donc c'est plutôt bien, puisqu'on les retrouvera de l'autre côté. Ça veut dire que les agents du service font eux-mêmes les travaux et on ne les délègue pas aux privés. Et une partie, c'est l'augmentation des redevances du du CIVOM et de Nicolas, le délégataire. Et donc là, on ne fait que boîte aux lettres, il y a les dépenses et les recettes. C'est transparent pour nous, mais on prévoit l'augmentation à ce niveau-là. C'est l'essentiel de l'augmentation sur le total, c'est fait 72 000 euros. On prévoit une stabilité des charges de personnel, on devrait arriver au même montant que l'année dernière, notamment en faisant quelques optimisations du fait d'avoir un ingénieur. Il y avait un peu plus de charges l'année dernière, mais cette année, puisqu'on a justement cette réflexion-là, il y a certains postes dont on avait besoin d'été en personnel notamment, dont on pourra se passer cette année. Sur le reste, c'est une évolution assez identique. Des choses voilà, qui sont courantes d'une année sur l'autre, si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dedans, je vous le disais. Et les charges exceptionnelles, comme une définition, ça bouge forcément d'année en année. Sur les recettes de l'eau, donc, il y a cette histoire de double écriture sur de la comptabilisation des opérations d'ordre. On n'avait pas en 2023, on a compté deux en 2024, on en compte une en 2025. Sur les ventes de produits de l'eau, ça a effectivement augmenté en 2024 et en 2025 pour l'augmentation des tarifs. Sur le reste des recettes, sur les recettes, il y a 12% d'augmentation. Il y a une partie, c'est la décision de la ville, et il y a une partie, c'est la décision du CIVOM et de son délégataire. Donc on retrouve les 72 000 euros qu'on avait précédemment. Voilà pour les dépenses. Pour la partie investissement, pour les dépenses et les recettes de fonctionnement, en résumé, un peu pareil que le budget général. Sur la partie investissement, en 2025, on a prévu donc, les travaux de la carrière basse et du belvédère qui pourront être réalisés en régie, donc par nos agents. Vous l'avez identifié, 180 mètres de travaux et une dizaine de documents. On poursuit également la recherche des fuites sur le réseau. De ce point de vue-là, le fait que le service de l'eau soit vraiment monté en compétence. On a eu une première embauche d'une personne que tout le monde ici connaît particulièrement bien, Pauline, qui travaillait dans ce milieu-là depuis des années. Et on a l'année dernière travaillé chez Veolia. Et on a l'année dernière embauché un ingénieur qui travaillait lui chez Nicolas. Donc des gens qui connaissent très bien le métier de côté privé et qui ont pu apporter à la collectivité, même au-delà, aux communes qui travaillent avec nous dans l'enfance, leur expertise, leur intelligence et leur pertinence pour ces recherches de fuite. Et l'année dernière, on a réussi à diviser par deux le débit global de fuite, même en moins d'un an, en 8 mois, puisque depuis le mois de juillet, on avait 30 mètres cubes par heure de fuite. C'était à peu près le montant qu'on avait en début de mandat, on a diminué à 15. Pour rappel, le début des travaux de la tranche 1, la première tranche,